BW. Droits et libertés.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine Droits et Libertés avec son nouvel habillage. En ces temps perturbés de résurgence d'idées nauséabondes dans le monde, en Europe, en Allemagne, il est toujours utile de se souvenir de l'histoire pour penser le présent. D'autant plus quand ce souvenir permet des rencontres émouvantes, comme celle que je vous propose cette semaine avec un vieux monsieur. Mano Höllenreiner est allemand, bavarois et membre de la communauté des Roms, les Tziganes. Sur son bras, un tatouage parle encore de l'enfer qu'il a traversé quand il était prisonnier dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Mais on commence tout de suite par un entretien sur les relations sino-africaines au cœur d'un grand forum cette semaine à Pékin. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. La Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Afrique. Pour renforcer encore ce partenariat, elle organisait cette semaine un forum à Pékin destiné surtout à parler gros sous. Et quand je dis gros sous, il s'agit de dizaines de milliards de dollars. Mais cette coopération concerne les entreprises, les États. Qu'en est-il des retombées sur les citoyens africains ? Eh bien, j'ai posé la question à Germain Ngoye-Tshibambe. Il est professeur en relations internationales et directeur de cabinet du recteur de l'université de Lubumbashi en République démocratique du Congo.
Sur le plan stratégique, sur le plan de la politique mondiale, de la politique globale, la Chine est réellement en train de monter comme une puissance. La Chine ne veut pas coopérer avec les peuples africains qui ont des problèmes. La Chine coopère avec les États.
Donc en fait, c'est une vision pragmatique des choses. La Chine a découvert l'importance du marché africain pour écouler ses exportations, pour importer aussi, notamment depuis la RDC, des matières premières. Et donc elle se dit, faisons des échanges commerciaux sans regarder de plus près la façon dont, par exemple, certains des partenaires en Afrique ont pu, par exemple, accéder au pouvoir ou gouverner, ce que font de plus en plus les pays européens qui posent des conditions à leur aide.
Pour que la coopération réussisse, il faut réellement se mettre de son côté, avoir dans son camp des tas de manière à compter sur cette force démographique que les États d'Afrique proposent, de manière à ce qu'elle sache écouler. Vous savez que sur ce plan-là, la Chine, qu'on considère comme le grand atelier du monde, est capable de produire des produits de toutes les gammes, de tous les prix.
Mais alors justement, ça fait aussi partie des reproches que certains économistes, notamment, formulent à l'encontre de la Chine. C'est-à-dire à la fois que... avec ses produits industriels bas de gamme, moyenne gamme, elle inonde les marchés africains et qu'elle, avec ça, elle est aussi co-responsable du fait que l'industrialisation des pays africains n'a pas lieu.
Il n'importe pas de reprocher à la Chine cet effet en Afrique, mais il importe d'attirer l'attention des États africains pour qu'ils sachent qu'en coopérant avec la Chine, ils aient des politiques qui les aident à résoudre leurs problèmes.
Donc si je vous comprends bien, vous recommandez aux États africains, aux dirigeants africains, de prendre tout autant conscience de leurs propres intérêts que la Chine a, elle, conscience de ses intérêts à elle pour pouvoir négocier de façon équilibrée.
Oui, je pense. Dans les interactions avec la Chine, la mesure de gagnant-gagnant doit partir de la capacité des États africains à définir ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de cette coopération, du fait des interactions avec la Chine.
Parmi les points qui sont souvent salués en Afrique dans la politique étrangère et commerciale de la Chine vis-à-vis des États africains, c'est ça. Le fait qu'elle réclame sa non-ingérence, son respect total de l'indépendance politique des États africains, puisqu'elle ne pose pas donc les mêmes conditions de bonne gouvernance, etc., que d'autres partenaires, notamment occidentaux. Est-ce que, du point de vue des populations africaines, cette fois-ci, c'est quelque chose qui est accepté ou même souhaité? Ou alors, est-ce que ça ne fait pas qu'abandonner un peu plus des populations à leur sort, si de l'extérieur, il n'y a personne qui regarde ce qui se fait un petit peu dans le pays, s'il n'y a plus de moyens de pression sur les États?
Donc, vous parlez des populations africaines, c'est trop général. Dans les populations africaines, il y a les masses rurales qui ne comprennent rien, qui ont tellement trop de problèmes de survie qui sont indifférents à ce qui se passe. Si c'est l'un, se mettre à pleurer et invoquer le ciel pour que ça change. Mais il faut considérer une catégorie de populations africaines, ce sont les activistes. Il faut aussi considérer le point de vue des intellectuels. Alors là, vous avez raison. Je pense que toutes ces populations, la politique étrangère de la Chine est un lieu de malaise, sinon d'insatisfaction. En ce qu'on reproche à la Chine, pratiquement, de ne pas aider ces populations africaines à obtenir aussi un point d'ancrage pour un peu plus de pression, de manière à ce que dans les politiques africaines, il y ait un peu plus de changement et d'engagement sur les grandes questions de l'heure, comme le respect des droits de l'homme, le respect de la gouvernance, etc. etc.
Mano Höllenreiner a le pas assuré à 84 ans. Il reçoit dans son pavillon d'une petite commune à 80 km à peine à l'est de Munich. Au mur, des photos témoignent de ses rencontres avec différents présidents allemands, Christian Wolff et Joachim Gauck notamment. Sur les clichés, le vieil homme leur montre son tatouage Z35-26. Z comme Tigoina, Tigane, Gitan. Ce sont les nazis qui lui ont marqué le bras à jamais à son arrivée dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Mais les traces d'encre sur le bras ne sont que superficielles. Le traumatisme, lui, est bien plus profond. Ces derniers temps, Mano Höllenreiner a beaucoup maigri, ses pieds tremblent. Son médecin lui dit que ce sont ses nerfs qui flanchent après tout ce qu'il a vécu. En 1943, la police vient rafler Mano et sa famille. Sous couvert de les envoyer dans une ferme en Pologne, les nazis les déportent dans un camp de concentration, dans des wagons à bestiaux. Le voyage dure plusieurs jours, entassé, sans air et sans toilette. Dans le camp, le petit Mano est tombé, trop faible pour se retenir, il s'est cassé le nez. Sa mère lui sauve la vie en ne l'emmenant pas à l'infirmerie, de peur de ne jamais le revoir. Chaque matin, elle le traîne à la pelle, le soutient pour que les gardes ne remarquent pas les blessures de son petit garçon.
Le matin, on devait se lever à 4 heures, même l'hiver, avec de la neige partout. Les vieilles femmes mouraient de froid, certaines tombaient par terre. Il y en a même qui tombaient dans les toilettes. Enfin, il n'y avait pas de vraies toilettes, mais des seaux. C'était horrible. C'est un miracle que nous soyons encore en vie.
Mano Höllenreiner a connu la faim. Les prisonniers ne recevaient qu'un petit morceau de pain par jour et parfois des légumes pourris. Un jour, il passe devant une maison de garde SS et, affamé, vide d'un trait l'écuelle du chien, mieux nourri que les prisonniers. Il a dû aussi transporter des bocaux en provenance de l'infirmerie. Et dedans, il y avait des organes humains prélevés sur des enfants. Le cruel médecin d'Auschwitz-Birkenau, Josef Mengele, il faisait des expériences sur les petites ziganes. Mano Höllenreiner raconte qu'une fois, Mengele avait fait sauter des jumeaux du troisième étage et ensuite, il les a recousus ensemble. Hugo, le cousin de Mano et son frère, ont eux aussi été opérés par Mengele. Après, ils souffraient de graves blessures aux organes génitaux. Son oncle, son cousin, son père ont été stérilisés de force, au couteau. Sa mère aussi, par des injections d'acide. Avec son cousin Hugo, Mano, qui avait alors une dizaine d'années, a dû déblayer les corps des prisonniers assassinés ou morts d'épuisement. Et parmi eux, il y avait un petit enfant.
J'ai juste vu sa tête, une toute petite tête. On devait ramasser les cadavres. Le tas était aussi haut que le plafond de mon appartement.
Dans la nuit du 2 au 3 août 1944, le camp des Tziganes d'Auschwitz-Birkenau est évacué. Des hommes, des femmes, des enfants y sont massacrés dans les chambres à gaz avant que leurs corps ne soient réduits en cendres dans les fours crématoires. Les historiens estiment qu'au moins 4000 personnes y ont été tuées rien que cette nuit-là.
Nous étions allemands. Mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient servi dans l'armée allemande. Nous sommes des Sinti allemands.
Aujourd'hui encore, Manuhöln Rainer entend de nouveau les hurlements des gens que l'on torture, que l'on assassine, les cris des mères à qui l'on arrachait leurs enfants avant de les trucider et de jeter leurs cadavres en tas. Encore aujourd'hui, les cadavres empilés le hantent au beau milieu de son salon et souvent le vieil homme se réveille en pleine nuit, hurlant, pour sortir d'un cauchemar. Après la guerre, Manuhöln Rainer est souvent intervenu dans des classes pour témoigner.
Pour que les jeunes Allemands sachent ce que nous avons enduré dans les camps et que Hitler a mis en place un système criminel. Or, il y a toujours des gens pour regretter cette époque des nazis. Ça me fait peur. Il ne faut pas que cela se reproduise. Nous, les Allemands, nous le savons que 6 millions de Juifs et 1,5 million de Sinti, de Roms, de Russes ont été exterminés. Et pourtant, il y a encore des gens qui vantent ces mérites.
Manuhöln Rainer a raconté son histoire à l'autrice Anja Tuckermann, qui l'a retranscrite dans son livre Mano, paru au Hansa Verlag, c'était en 2008. C'est la fin de ce magazine. Merci à Andrea Grunau pour cette belle rencontre avec Manuhöln Rainer. Et merci aussi au professeur Germain Goyechibambe de Lubumbashi. Vous pouvez podcaster gratuitement Droits et Libertés en vous rendant sur dw.com/français dans la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.